Chapitre 85. Même après le coup terrible que venait d'encaisser son armée, Outros n'était pas disposé à baisser les bras. Mais Ildakar avait disparu, le privant d'une ville à conquérir. Malgré des pertes effroyables, il pouvait encore compter sur de formidables réserves, des guerriers ivres de vengeance qui n'avaient plus de cible en face d'eux. Balayant du regard ses innombrables fils, tous en état de sidération, Outros comprit qu'il devait leur redonner une raison de vivre. Leur motivation retrouvée, ces hommes rejoindraient les corps expéditionnaires déjà en route pour de glorieuses conquêtes. À l'origine, le général avait pour objectif d'obtenir le pardon de Croc de Fer et de rentrer dans ses grâces. Mais ces derniers temps, il avait de moins en moins de respect pour son maître. « La loyauté est plus forte que l'amour. » Était-ce encore vrai? La femme qu'il aimait, Magel, était détruite et il n'éprouvait plus rien de positif au sujet de son bourreau. Retournant vers son quartier général, épargné par le désastre, le général constata que la lentille géante était intacte. Comme toujours, Ava et Rouva étaient prêtes à le soutenir, quoi qu'il puisse décider. Sans doute par miracle, Enoch aussi s'en était tiré, la première bonne nouvelle du jour. Mais quoi qu'il fasse, Outros ne connaîtrait jamais les noms de tous les morts. Un chef digne de ce nom devait cette marque de respect à ses soldats, mais là, il y en avait trop, beaucoup trop. Perché sur son destrier, Enoch se pencha vers son supérieur.
« Les hommes attendent tes ordres, général, et ils te suivront jusqu'au bout du monde. »
Peinant toujours à en croire ses yeux, Outros sonda l'endroit où aurait dû se dresser Ildakar. En l'absence de la cité, les ordres de Kourgan n'avaient plus aucune valeur. Rien de dramatique puisque le tyran n'avait jamais compris la situation sur le terrain, ni dans le reste de son empire d'ailleurs. S'il savait se faire craindre, Croc de Fer n'avait rien d'un dirigeant. Pompeux et mégalomane, il ne devait pas le pouvoir à ses mérites, mais aux efforts d'hommes comme Outros, en d'autres termes, c'était un parasite. Comment le général avait-il mis si longtemps à s'en apercevoir? Avec un tel mari, pas étonnant que Magel ait cherché l'amour dans les bras d'un deuxième homme. Si elle ne m'avait pas rencontré, aurait-elle choisi n'importe qui d'autre? Une femme si belle et si parfaite. Pourtant, après les horreurs que lui avait infligées Kourgan, elle était retournée auprès de lui. Comment comprendre un comportement pareil? Mais pourquoi s'épuiser à essayer? Sa loyauté et son amour, Outros les devait désormais à ses hommes. Il était leur chef et leur guide, en chair et en os. Rien à voir avec un spectre contraint de s'exprimer par l'intermédiaire d'un artefact. Outros s'arrêta devant la lentille géante un peu roussie mais toujours fonctionnelle. Sur un geste de lui, les jumelles activèrent les runes. Une fois la brume verte dissipée, le général sonda longuement le royaume des morts. Aujourd'hui, cet endroit sinistre et sans espoir semblait être le reflet du monde des vivants. Kourgan approcha, un sourire dévoilant son croc de fer légendaire. Magel le flanquait, le visage toujours aussi terrifiant. Et quand elle leva ses yeux sans paupières, Outros y lut qu'il n'y avait plus une once d'amour pour lui dans le cœur de cette femme.
« Tu voulais me voir, Outros ?»
demanda Kourgan.
« Si t'as enfin pris le Dakar, voici mes premiers ordres. Fais exécuter tous ceux qui m'ont défié. Quand ils arriveront ici, nous continuerons à les punir. »
Une perspective qui semblait réjouir le spectre.
« Ildakar n'est plus là !» souffla Outros. « Elle s'est volatilisée. »« Volatilisée ? Comment as-tu pu perdre une ville ? Et toi ? Comment as-tu pu perdre un empire ?»
Une répartie qui mettait un terme à toute forme de loyauté envers ce pantin de Kourgan.
« Comment as-tu pu perdre la plus belle femme du monde et laisser filer les terres que j'avais conquises pour toi pendant que je me battais ailleurs en ton nom, de nous deux, qui est le crétin ?»
Kourgan rugit d'indignation.
« Je t'interdis de me parler sur ce ton. Respecte ton empereur !»« Tu es mort, imbécile !» « Mon empereur, toi, quelle blague! Sais-tu ce que j'ai compris? La loyauté et l'amour ne sont pas assez forts, vieil idiot. Moi, je suis puissant, je commande une armée, et la conquête de l'ancien monde, je la ferai pour moi. Mes soldats me suivront, Kourgan. Ensemble, nous créerons un empire digne de ce nom. Toi, tu corrompais tout ce que tu touchais. »
Alors que l'empereur mort restait bouche bée, Outros parla d'un ton plus doux.
« Magel, je t'ai adoré, mais notre amour était condamné depuis le début. À l'époque, j'aurais dû être assez sage pour le savoir.
Lucide, j'aurais peut-être pu te sauver, mais à quoi bon pleurer sur du lait renversé il y a 15 siècles? Contraint et forcé, je me construirai un avenir où tu ne seras pas. Le général se tourna de nouveau vers Kourgan.
Et toi non plus, croc de fer!
Sans accorder d'attention à la fureur du spectre, Outreau s'écarta de la lentille géante, puis il ramassa le marteau de guerre emprunté à un de ses soldats, une arme bien réelle dont le contact le rassura, et l'abattit sur le verre veiné de sang. Des étincelles jaunes jaillirent de la fissure originelle qui se propagea très vite en étoiles. Sur un dernier cri de rage de Kourgan, piégé de l'autre côté, l'artefact se désintégra en une multitude d'éclats de verre qui tombèrent sur le sol. Soulagé et fier, Ava et Rouva sourire à leur général chéri. Rayonnant, Enoch plaqua un poing sur son cœur et cria
« Pour le général Outreau !»
Les jumelles reprirent ces mots et furent bientôt imitées par des milliers de gorges. Soudain, sans aucun lien avec la destruction de l'artefact, Outreau sentit une déferlante de magie s'abattre sur la plaine. Oui, une onde de choc qui balayait tout mais sans faire de dégâts. D'instinct, Outreau se porta une main à sa poitrine où sa chair à demi-minérale palpitait étrangement. Ava et Rouva se regardèrent, puis interloqués se tournèrent vers leur chef adoré. Héberlu et Enoch tâta d'abord un de ses bras, puis ses joues. Partout, des soldats stupéfiés criaient en pliant les bras ou en regardant leurs mains. Outreau se frissonna. Comme lorsqu'il s'était réveillé, après 15 siècles de sommeil minéral, il avait éprouvé le sentiment de se réchauffer. Mais cette fois, il aurait juré qu'il était bien plus humain. D'ailleurs, l'impression de raideur se dissipait. Oui, c'était ça. Sa peau devenait plus souple et ses muscles se détendaient. Quand il expira, de la poussière s'échappa de sa bouche. Touchant d'abord le demi-masque d'or sur son visage, il tâta son autre joue et retrouva sous ses doigts la barbe soyeuse dont il avait toujours eu l'habitude. La peau des jumelles, constata-t-il, n'était plus livide mais joliment rose, comme il convenait.
« Il n'y a plus de pierre en nous !»
dit Rouva en levant une de ses très jolies mains. Les deux sœurs se caressèrent les joues puis les bras.
« Le sortilège s'est totalement dissipé !»
confirma Ava. Partout dans le camp, des murmures ravis succédaient aux cris de surprise. Enthousiaste, un soldat sauta en l'air en agitant les bras.
« Nous sommes redevenus humains !»
Il y avait une seule explication possible. Le sorcier inventeur du sort, des lustres plus tôt, avait quitté ce monde. Débarrassé des vestiges du sortilège, Outreau et ses hommes étaient libres comme l'air.
« Oui, nous sommes vivants !»
cria le général, un poing levé. Un rugissement de joie collectif retentit sur tout ce qui restait de la plaine. S'autorisant un moment de satisfaction, Outreau s'efforça de cacher son inquiétude à ses fidèles soldats. Le moment d'euphorie passé, ils en viendraient vite aux mêmes conclusions que lui. Ses hommes étaient perdus dans une plaine dévastée, très loin de la prochaine ville, sans vivres, sans équipement et sans Ildakar à conquérir. Comme pour confirmer ses soucis, Outreau s'avisa soudain qu'il crevait de faim.